si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du mercredi 18 février 2026, et en appel à la manifestation pour la justice et la vérité dans l'affaire Delhacène Diarra, tué par la police le 14 janvier 2026 dernier, nous vous diffuserons une partie des prises de parole qui ont été réalisées lors de l'Assemblée Générale qui avait lieu à la Bourse du Travail le mardi 10 février 2026 en vue de l'organisation de cette mobilisation. Avant cela, nous vous diffusons un rapide montage afin de resituer le contexte de cette soirée du 14 janvier dernier et les différentes déclarations et avancées qui ont pu être faites dans ce dossier. On vous laisse écouter ça et on revient ensuite dans l'actualité des luttes.
Dimanche 25 janvier, des milliers de personnes se sont réunies à Paris, devant le foyer de sans-papiers des Mûriers. La famille de la victime dénonce un crime. Selon eux, ce sont les violences exercées par les agents qui ont entraîné le décès. Pour se défendre, ils désignent Maître Yacine Bouzrou. Le 17 janvier, l'avocat dépose plainte contre les policiers.
Alassane Diarra habitait 621. Moi, j'habite 620. Alassane, je connais par cœur. C'est quelqu'un de généreux. Il ne dérange personne.
Nous, on peut rigoler entre nous comme ça. Lui, il t'assoit sur moi, il nous regarde, il ne parle rien du tout. Il était là, calme, souriant. Il ne dérange personne. Depuis en Afrique jusqu'à là, comme ça. Moi, je suis venu en 2009. On est même maison. À ce moment, moi, j'ai laissé Alassane là-bas. Alassane aussi, il est venu en 2018. Tout le monde rêvait d'une bonne vie. Tu es là, tu travailles, tu as une bonne vie, tu as une bonne situation. C'est ça que nous tous, on voulait.
Elhassen avait 35 ans. Arrivé de Mauritanie en 2018, il vivait ici, dans cette chambre, avec son cousin Moussa. La journée, il cherchait du travail. Le soir, il suivait des cours de français.
Lui, il voulait devenir un artiste. Il fait des dessins, tout ça là, même ses dessins, c'est lui qui a fait tout. Il a beaucoup de dessins ici, mais comme que malheureusement, je n'arrive pas à sortir tout. Mais c'est lui qui a dessiné tout, il était en cours de soir. Franchement, c'était nickel.
Le jour de son décès, il a fait le thé ici, jusqu'à 20h, 21h. Il a descendu sa poubelle pour aller fumer l'endroit que d'habitude.
En ce moment, moi, je suis là, je regarde les matchs.
C'est parti ici au grand stade de Tanger pour cette première demi-finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et l'Égypte.
Lorsque le match est fini, je descends en bas. C'est là-bas que j'ai pris les nouvelles de dire que les flics et les policiers, ils sont venus, ils ont contrôlé jusqu'à ils sont amenés au commissariat.
Il a été transporté au commissariat dans un état grave, dans la mesure où il saignait abondamment, qu'il y avait une mare de sang au sol, que des témoins ont vu. Nous avons d'ailleurs des photos de cette mare de sang.
C'est donc avec le visage ensanglanté qu'Elhassen est conduit au poste de police de Gambetta. Très peu de temps après son arrivée, il s'effondre. La vie de Elhassen Diarra se termine ici, dans l'enceinte de ce commissariat parisien. Au foyer des Mûriers, l'annonce de sa mort est un choc.
Avant, il y avait l'ambiance, tout. Mais là, aujourd'hui, vous voyez quand vous rentrez, c'est gelé, on ne sait pas quoi faire.
Avant de décéder Elhassen, on a de petits groupes partout, à côté. On s'est réunis, on discute, on rigole ensemble, on filme ensemble, on prend des cafés ensemble. Mais depuis la décédée à la salle jusqu'à maintenant, tout s'est fini. Maintenant, tu ne vois aucune personne sur la nuit, on ne voit personne. Tu peux descendre, tu filmes, tu montes. On est tous peur maintenant de les policiers.
Et même s'ils nous contrôlent des papiers, ça ne veut pas dire qu'on tue la personne, ça ne veut pas dire qu'on frappe la personne.
Pour la famille, la responsabilité des policiers ne fait aucun doute. Mais rapidement, c'est un autre récit qui s'impose dans la presse. Celui du parquet, qui reprend directement la version des policiers impliqués. Selon eux, ils soupçonnaient Elhassen de rouler une cigarette de cannabis. Ils décident donc de le contrôler. Il aurait refusé de s'y soumettre, les obligeant à utiliser leur taser pour l'amener au sol, provoquant avec lui la chute d'un policier. Ils déclarent ensuite avoir trouvé sur Elhassen des faux documents d'identité. Il est transféré au commissariat, toujours selon eux, sans incident particulier. À son arrivée, il aurait été victime d'un malaise cardiaque. Les policiers disent l'avoir allongé au sol et tenté de le sauver, sans succès. Aucune mention de violence ou de coups. Les policiers ajoutent que leurs caméras piétons ne fonctionnaient pas, car elles étaient déchargées. Pas de chance. L'histoire aurait pu en rester là, mais deux jours après, une vidéo de l'interpellation filmée par des voisins et diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre une version très différente de celle décrite par le parquet. On y voit un policier frapper Elhassen. Dans la vidéo, on peut entendre Elhassen leur dire plusieurs fois ceci. Le 20 janvier, c'est un nouvel élément, cette fois d'ordre médical, qui vient fragiliser la version du simple malaise cardiaque.
Nous avons une autopsie qui vient corroborer ce que nous pensions, c'est-à-dire qu'il a été étranglé et battu à mort. Les éléments médicaux montrent une plaie extrêmement importante au niveau de la tempe, ce qui a occasionné un saignement abondant et également une fracture au niveau de la thyroïde. Et c'est un signe caractéristique d'étranglement. Il ne manque absolument rien dans cette affaire pour affirmer que le décès résulte de l'interpellation extrêmement violente des policiers.
Il n'y a pas que la vidéo qui a été prise par un particulier, qui a d'ailleurs été versée au dossier de l'enquête et qui fait bien état, effectivement, de coups portés à cet individu. Il y a deux coups qui sont portés à cet individu. Mais de là à en déduire que ces coups ont été mortels, il y a un pas que je ne franchis pas parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours. Moi, je fais confiance à la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire et je n'ai évidemment aucune raison de suspendre les fonctionnaires de police en question.
Les propos du ministre de l'Intérieur montrent à quel point la situation est effrayante, car nous avons un ministre qui dit... Je sais qu'ils ont commis des fautes puisqu'ils voient les coups de poing portés au sol illégitimes. Et donc ils constatent des fautes que moi j'appelle des infractions pénales, mais ils disent qu'ils ne le sanctionnent pas. Donc on a une situation qui est particulière et c'est une grosse difficulté pour notre pays. Le fait de ne pas saisir l'IGPN immédiatement, le fait de confier au début l'enquête à un commissariat de quartier, le fait de ne pas placer en garde à vue ces policiers, c'est-à-dire leur permettre de pouvoir se mettre d'accord sur une version commune, le fait de ne pas donner les bonnes informations à l'opinion publique. Madame le procureur savait pertinemment que les policiers n'ont pas remis la vidéo des caméras piétons. Cet élément a été dissimulé à l'opinion publique et à l'avocat que je suis. Et surtout, Madame le procureur de la République a attendu 5 jours après notre demande officielle avant de saisir un juge indépendant. Donc tout ceci, et c'est mon avis, a été mis en œuvre afin de protéger ces policiers, afin d'étouffer l'affaire.
Dimanche 25 janvier, à l'appel de la famille et des collectifs de sans-papiers, une marche a lieu au départ du foyer des Mûriers.
Aujourd'hui, nous sommes là pour demander la justice. Parce que l'autopsie a montré que
Le décès est arrivé suite à une violence. Et la violence, nous, on a vu sur les vidéos. Nous sommes là pour demander que les policiers qui ont violenté Ali Hassan et qui a donné à sa mort, que la justice soit faite, que ces policiers-là soient interpellés, soient traduits devant la justice et qu'on voit qu'ils sont condamnés. C'est seulement ce qu'on demande aujourd'hui.
Je n'ai pas trop confiance. Je n'ai pas trop confiance parce qu'ici en France, justice, on n'y croit pas. Donc, mais quand même, on est là parce qu'on est de la famille et c'est notre devoir d'être là.
Nous sommes en colère parce qu'on n'acceptera pas, on n'accepte pas que l'une de nôtre ou l'un de nous se fasse tuer à cause de sa couleur de peau ou à couleur à cause de sa religion. Ce n'est pas possible pour nous. Si on vit dans un pays, soit disant un pays des droits de l'homme, avec ou sans papier, nous avons droit de vivre.
J'ai 365 cicatrices et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs. Dans les pleurs et les cris, étouffés par les tresses piègles, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition. Et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers en rôle et tirailleurs. Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Et qui on appelle pour les excréments, des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants. Et ces traditions qu'ils sauvegardent, en y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints blonds pour faire blanc. S'ils savaient que pour être libre, fallait courir, ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle. Et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits. Non pas à vie, mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations. Critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce t'en sais? J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français. Un Français FABA, une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que quelques années, environ 400? Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang.
Parole de descendants de coupleurs de câbles.
Vous êtes donc de retour dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30. On vous diffuse maintenant les prises de parole enregistrées lors de l'Assemblée Générale en vue de l'appel à la manifestation du 21 février prochain au départ de Barbès-Rochechouart à 14h pour la justice et la vérité dans l'affaire d'Alassane Djara et pour toutes et tous.
On n'est que quelques semaines après l'assassinat de notre frère El Hassen, la mobilisation, elle doit s'amplifier. On sait que c'est des combats qui sont longs, parce qu'on se confronte à l'État, au combat judiciaire, au combat dans les quartiers. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est déterminant pour tenir dans la durée. Parce que vraiment là, l'objectif de cette Assemblée, c'est de permettre à tous et toutes, après, quand vous retournez là où vous vivez, dans votre quartier, là où vous travaillez, là où vous étudiez, que vous puissiez organiser cette solidarité pour El Hassen. Faire des soirées de soutien pour collecter de l'argent pour la cagnotte. Faire des soirées de soutien pour vendre des t-shirts et produire des t-shirts. Faire des assemblées dans les quartiers pour parler d'El Hassen, faire des collages, se battre contre la police dans chacun des quartiers. Parce que les meurtriers d'El Hassen, dans le 20e, ils continuent à être tous les soirs à faire des contrôles. Et des meurtriers comme ça, il y en a potentiellement dans tous les quartiers du 20e. Parce que le message qui a été envoyé là, par Laurent Nunez à tous les policiers de Paris et d'ailleurs, c'est vous pouvez tuer, vous aurez notre soutien. Et donc pour empêcher ça de se produire, il faut qu'on s'organise de partout. Et que ça se rassemble aussi, et ça va être une des propositions ce soir, dans une grande manifestation le 21 février, samedi, en direction du ministère de l'Intérieur, pour justement augmenter la pression. Voilà, merci pour votre présence, merci pour votre mobilisation. On passe la parole à la famille d'El Hassen Djara.
Bonsoir. Bonsoir à tout le monde.
Merci à vous tous d'être là ce soir pour le soutien pour la famille Alassane Diarra. Ce qui est arrivé à nos frères il y a le 15 janvier à Paris 20e. La famille, on a besoin toujours de soutien. Comme Mathieu vient de dire, l'enquête elle est toujours en cours. Tout ce que nous, on veut que la police soit suspendue. Au lieu qu'ils continuent pour leur travail comme rien n'était. Ils se lèvent le matin, ils prennent leur café, ils vont aller travailler. Alors nous, la famille, on en deuil. On n'arrête pas de pleurer. À chaque fois qu'on parle d'Alassane, il y a quelqu'un qui pleure. Ici, nous-mêmes, on a du mal à se contrôler. Imagine au pays, en Afrique. Chez nous, c'est encore pire. Ça fait 3 semaines qu'il est mort. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu son corps. Déjà, c'est dire. C'est pas facile. On a besoin de votre soutien. On a besoin que tout le monde soit avec nous. Déjà, on sait que le temps, c'est pas facile. Mais toujours, on a besoin de vous. La seule chose que nous, on pouvait dire, juste pour vous remercier, pour d'être présent ce soir. Et comme Mathieu vient de dire, parce qu'on a un manif à organiser le 21 février. Donc on a encore besoin de vous. Tant que vous êtes avec nous, on est bien, on est fort mentalement. Bon, toujours, on pouvait dire que vous remerciez. Il n'y a pas d'autre à rajouter. Et merci à vous encore et merci d'être là. Bonne soirée.
Il s'appelle Moussa Diarra, cousin de Alassane Diarra, et il partageait le même logement pendant 4 ans. Et je salue tout le monde, et je remercie tout le monde, tous les gens qui se sont déplacés, depuis le 14 jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie toutes les gens qui se sont mobilisés, toutes les manifestations qui sont passées, les collectifs, les associations, et je vous remercie. Aujourd'hui, là où on est, Alassane, jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas vu encore. Et c'est quelque chose qui est très dur pour eux. Et nous voulons, tous les gens qui sont derrière nous, toutes les associations et les militants qui sont derrière nous, qui se mobilisent encore pour donner de la force, pour vraiment trouver une solution et que justice soit rendue. Et aujourd'hui, Alassane, c'est son frère. Depuis qu'il a quitté au village, il vit chez lui. Il n'a jamais eu de mal. Il n'a jamais eu quoi que ce soit avec qui que ce soit. Alassane, depuis qu'il a quitté le pays, sa maman, il n'a que 2 garçons et une fille. Alors, il y a un de ses fils qui a pris la pirogue, la mer, pour venir en Espagne. Malheureusement, il est décédé dans la mer. Et après, de suite, et son père est aussi décédé. Donc, Hassan, c'est un fils unique en ce moment. Alassane, même si tu le vois, on sait qu'il a des problèmes, soucis mentaux. Il est en santé mentale. Ce qui s'est passé, vraiment, ils sont le corps lourd. Là, ça fait 3 semaines, il ne dort pas. Il ne dort pas et il ne pense qu'à respirer, il ne pense qu'à penser les gestes d'Alassane, ses images, ses imaginations. Donc, ce qu'il demande aujourd'hui à l'ensemble des gens, vraiment qu'on soit ensemble, qu'on porte la lutte ensemble. C'est vraiment une lutte qu'on a commencée. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc ce qu'on demande à Dieu, que vraiment justice soit rendue, que la vérité soit faite. Jusqu'à présent, les polices n'ont pas été jugées, n'ont pas été sanctionnées. Ils sont encore en train de tourner dans nos quartiers, dans nos rues. Et c'est inadmissible. C'est quelque chose qui fait mal au cœur. Donc ce qu'on demande aujourd'hui à tous les militants, à toutes les associations, à toutes les personnes qui sont là, qu'on soit mobilisés, se battre ensemble pour que la vérité soit sortie. Donc il demande vraiment que tout le monde l'excuse parce qu'il a été long un peu sur ses paroles, mais c'est ce qu'il a à dire. Merci. Je me donne la parole, je m'appelle Ladji Sako, je suis vice-président du comité de Mûrier. Au foyer Mûrier, j'ai vécu pendant 10 ans. Alassane, je le connais comme je me connais. Alassane, il vit au-dessus de moi, au 6e étage, j'ai vécu au 5e étage. Je l'ai toujours dit, Alassane, même en le voyant, on sait quand même qu'il a quand même un petit handicap léger. Ça se voit sur son image, ça se voit sur ses gestes. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. C'est un homme gentil, un garçon calme, qui est dans son coin, qui prend son café tous les matins et tous les soirs. Mais malheureusement, ce qui est arrivé à Alassane peut arriver à moi, peut arriver à tous les gens qui sont là, qui sont aujourd'hui présents dans cette salle. Et ce qui est arrivé, c'est inadmissible, parce que les policiers l'ont interpellé en bas de chez lui et ils l'ont tabassé jusqu'à c'est qu'il a perdu vraiment la vie. Et c'est quelque chose qu'on doit le dénoncer. C'est quelque chose qu'on doit le dire partout. Stop. Stop aux bavures policières. Stop à l'impunition. C'est très dangereux ce qui s'est arrivé. Alors moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'il faudra quand même que le ministre revienne sur ses mots. Et quand on a entendu que le ministre, en disant qu'il ne va pas sanctionner les policiers, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Donc il faudra quand même que les policiers soient sanctionnés et soient jugés, voire même on les, comment dirais-je, sanctionnés de leur tenue. Ce qu'on demande et ce que la famille demande. Alors je reviens un peu sur le témoignage de Moussa, qui disait que Alassane, c'était l'espoir de sa mère, l'espoir de toute une famille, voire l'espoir d'un village. Je suis issu de sa communauté, de cette communauté. Je sais le jour où tu prends ton sac pour aller à l'étranger, on le sait tous, c'est toute une famille, tout un village qui se met devant la porte de la maison. Alors leur seul espoir, c'est quoi? On attend que un jour, Alassane rentre au pays avec quelque chose qui peut aussi nourrir la famille. Donc cet espoir, malheureusement, s'est arrêté. Et ça fait très mal pour sa maman, pour les vivre. Ça fait très mal pour ses proches et ça fait très mal pour ses parents. C'est inadmissible. Il n'y a pas qu'Alassane. Il y en a d'autres. Dans le quartier, dans le 20e arrondissement, il y avait Lamine Dieng, dans le 20e arrondissement, qu'on s'est mobilisé avec sa sœur, Ramata Dieng, pendant des années. Mais jusqu'à présent, justice n'a pas été rendue. Donc il est temps quand même que l'État réagisse sur ces questions-là, parce qu'il ne se rend pas compte, tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Ça nourrit que la haine. Ça ne nourrit que la haine, et cette haine peut nous amener dans un endroit où vraiment on ne s'attend pas. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que le gouvernement soit conscient de cela, de régler ces problèmes-là. Donc on n'est pas des animaux, on est des êtres humains, des travailleurs. Et c'est important qu'ils chassent et qu'ils respectent les gens qui habitent dans ces foyers, des travailleurs, qui ont quitté leur pays, leur village, pour retrouver la sécurité et aussi pour pouvoir subvenir les besoins de la famille, mais pas pour se tuer de cette manière. Donc j'arrête la parole ici et je passe la parole à M. Silla, qui est aussi président du comité de Mûrier. Je vous remercie.
Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc on se réunit aujourd'hui pour le seul souci que tout le monde a rencontré, c'est la façon que la police a tué M. Alassane Diarra. Comme certaines d'autres personnes dans le 20e comme le manif de la, l'autre jour, j'ai toujours dit, notre police des 20e arrondissement, ils sont là pour nous diminuer, nous tuer, nous assassiner. Est-ce que ces policiers qui sont passés par école de police dans d'autres arrondissements, on ne voit pas ça? Il n'y a que 20e arrondissement que la police, chaque année, et tue des gens. Il faut qu'on trouve une solution. S'ils sont là pour encadrer la population du 20e arrondissement, on est pour. S'ils ne sont pas là pour encadrer, ils sont là que pour nous tuer. On ne veut pas de eux. Bon, je m'arrête là. On vous convoque aujourd'hui pour organiser la manif du 21. Bon, on invite à tout le monde d'être là. Merci beaucoup et bonsoir.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs. Tarbéda, un embarcadère ensoleillé au départ. Une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar. Celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise, retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents ont force à cingle, leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elles gardent en elles, ces séquelles marquent son cuir et le morcel.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposé sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafré de part en part, une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizen qui pleure en fils parti. Gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. Qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, partie de la soufrière, emportant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil, commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles. Pour finir empilé sur l'armoire du foyer, témoin du gain dur à envoyer. Souvenir terne d'une employée fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, de près d'un quart de siècle mon aîné. Dire qu'en 62, des ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève, à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le Havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rats et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre, il se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Toujours dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30 sur le 106.3 FM. On continue donc dans cette émission de vous diffuser une partie des prises de parole réalisées lors de l'Assemblée Générale en vue de la manifestation de samedi prochain au départ de Barbès-Rochechouart à 14h pour la justice et la vérité dans l'affaire Delassène Diarra et pour la justice pour toutes et tous.
On a commencé à rédiger une base d'appel avec le comité pour Delassène qui s'est constitué juste après les faits dans le quartier du 20e arrondissement. Du coup, je vais vous lire ce texte, ce qu'il est pour aujourd'hui. Justice pour Delassène, justice pour tous et toutes. Le 14 janvier 2026, la police a tué Delassène Diarra devant son foyer dans le 20e arrondissement. Violemment interpellé, étranglé, l'autopsie révèle une fracture du cartilage thyroïde, des signes d'étranglement. Aujourd'hui, les policiers responsables patrouillent toujours dans nos rues pour intimider les habitants et les habitantes. Et le ministre de l'Intérieur Nunez a déclaré qu'il ne suspendrait pas ces policiers. Seule notre mobilisation à tous et à toutes pourra imposer la justice. Le 20e arrondissement, zone d'impunité policière. Ce n'est pas la première fois que la police du 20e tue, mutile, viole et humilie. En 2007, Lamine Dieng est étouffée dans un fourgon de police, menottée avec 5 policiers sur son dos pendant 30 minutes. Comme Delassène, Lamine criait qu'il ne pouvait pas respirer. Résultat, non-lieu. Aucun policier n'est condamné. Entre 2019 et 2020, 5 femmes et une mineure ont subi des agressions sexuelles au sein du commissariat du 20e. Si le policier a bien été condamné, sa peine a été réduite à du bracelet électronique pour qu'il puisse continuer son travail. En 2023, Safia Tou, Salif et Ilan, 17, 13 et 14 ans, sont renversés volontairement par une voiture de police. Chacun d'entre eux a été gravement blessé et traumatisé, leur rêve d'avenir brisé. 3 ans plus tard, toujours pas de justice, l'impunité est totale. Dans nos mémoires et dans nos luttes, il s'appelait Moussa Bradaï en 2002, Ziad Bena et Bouna Traoré en 2005, Lamine Dieng en 2007, Hakim Hajimi en 2008, Ali Ziri 2009, Wissam El Yamni 2012, Amine Bentoussi 2012, Babacar Gueye 2015, Adama Traoré en 2016, Chao Ayo Liu en 2017, Brahim Moussa en 2018, Gaye Camara en 2018, Sabri Choubi en 2020, Souhey El Khalfaoui en 2021, Boubacar El Fadjidi en 2022, Nael Merzouk en 2023, Al-Hussein Camara en 2023, Sullivan 2024, et tant d'autres en France et dans nos territoires colonisés. De George Floyd à Delassène Diarra, toujours le même cri, je ne peux pas respirer. La même violence raciste d'État, le même système d'impunité qui tue encore et encore. Violence policière, État raciste. Il n'y a pas de bavure. C'est un système qui tue les personnes racisées, les immigrés, les plus précaires. La police est un instrument de soumission à l'ordre raciste et classiste. Garde à vue pour briser nos jeunes, amende pour appauvrir, violence pour soumettre, contrôle aux faciès pour humilier, rafle pour nous expulser. Ce combat nous concerne tous, parce qu'une société qui tolère qu'on blesse, qu'on assassine nos enfants, nos amis, nos cousins, nos voisines, nos frères et sœurs, dans la rue ou dans un commissariat, est une société où personne n'est en sécurité. Nous ne serons jamais en sécurité avec une police qui tue, avec un gouvernement qui hiérarchise les vies selon les origines et les religions. Nous ne serons jamais en sécurité tant que l'impunité perdure. La vraie sécurité, c'est la justice, c'est l'égalité des droits. Nous refusons l'oubli, nous refusons l'impunité. Quand une famille gagne, c'est toutes les familles qui gagnent. Nous réclamons une manifestation unitaire le 21 février jusqu'au ministère de l'Intérieur à Paris, ainsi que le 14 mars dans toute la France. Nous voulons faire pression sur les candidats aux élections. Nous voulons une présence aux audiences et aux procès, un accompagnement autour des familles. Nous réclamons la solidarité partout dans nos quartiers. Protégeons nos quartiers, surveillons la police. Pas de justice, pas de paix. Justice et vérité pour Delassène. Justice et vérité pour toutes les victimes. Égalité des droits pour tous et toutes.
Donc maintenant, comme on vous disait en début d'assemblée, on va donner la parole à 3 collectifs qui sont, par leur résistance face au racisme et aux violences policières, par leur organisation collective, des exemples à suivre pour tous et toutes dans ce combat qu'on doit mener ensemble et qui est devenu d'une importance capitale dans la situation actuelle. Donc on va commencer par Diallo, de la coordination Sans Papiers 75, après Bazou et Moussa, des jeunes du collectif des mineurs isolés en lutte, des jeunes du parc de Belleville, et Fatou Dieng, du réseau d'entraide Vérité et Justice.
Bonsoir. Merci à vous tous et à toutes. Merci beaucoup. Je m'appelle Diallo Pounenougou, coordination 75 des sans-papiers et marche de la solidarité. Et merci beaucoup d'être nombreux aujourd'hui. Et on remercie beaucoup tous les Français et Françaises qui sont là aujourd'hui, tous les étrangers qui sont là aujourd'hui. On remercie beaucoup. Cette assemblée, c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est le racisme qui est en train de détruire la France. Et aujourd'hui, et nous sommes là aujourd'hui pour témoigner ce qui s'est passé avec nos familles. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Tous les ans, il y en a assez, il y en a marre. Et chers camarades, on partage la douleur de notre frère que nous avons perdu. Et nous sommes tous là aujourd'hui. Et on pleure Arsane, on pleure d'autres qui sont perdus la vie. Mais tout ce qu'on demande aujourd'hui, les Français et Françaises qui sont là aujourd'hui, de nous accompagner dans cette démarche. Nous, on veut que ça s'arrête à Arsane. On ne veut plus que ça continue. Pour que ça s'arrête, il faut qu'on se mobilise davantage. Il faut qu'on se mouille le maillot pour que ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, s'ils ont fini le tour des immigrés, ça sera le tour des Français. Ça, on ne souhaite pas. Donc, aujourd'hui, on demandait à vous tous de s'impliquer et à nos côtés. Et il faut que justice soit faite, cet assassinat. Parce que la France, on dit, c'est le droit de l'homme. Mais est-ce que le droit de l'homme, il travaille en France? Pour moi, non. Et nous, les sans-papiers, on est la première victime de tous les problèmes. Parce qu'on n'a pas de papier, on n'a pas de logement, on n'a pas de travail, on n'a rien. Et pourtant, tous les boulots sales, c'est les sans-papiers qui le font. Et à la merci des patrons. Et aujourd'hui, nous demandons, ça fait des années que les sans-papiers se battent, mais aujourd'hui, on a vu des Français qui sont en colère par rapport à ce qui se passe. Pour montrer cette colère, donc, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on s'y unit ensemble pour combattre ce phénomène. Et pour dire que les sans-papiers aujourd'hui, nous sommes les boucs émissaires. Parce que l'élection va commencer, hein. Le municipal va commencer. Et tous les candidats, ils vont taper sur la migration pour qu'ils puissent avoir le voix. Mais on a vu avec le président, on a vu avec les ministres. Si tu veux avoir de voix, eh bien, il faut taper sur l'immigration. Eh bien, il faut taper sur les sans-papiers. On sait que les Français qui sont là aujourd'hui, et d'autres ne sont pas là aujourd'hui, et qui sont souciés de notre cause. Et pour nous, et aujourd'hui, il est capital. Pour ça, le 14 mars, nous appelons à une grande manifestation nationale contre le racisme, contre le fascisme. et la fermeture de tous les centres de rétention pour les sans-papiers qui sont arrêtés à défaut de papiers. Et nous demandons aujourd'hui, tous les Français qui sont là aujourd'hui, qui sont organisés dans leur quartier, dans leur ville, mais à travers les réseaux sociaux, nous, la marche de la solidarité, on est ouvert à tout le monde. Et tout le monde sont bienvenus. La solidarité, il n'y a pas de frontières. La solidarité, il n'y a pas de limites. La solidarité, c'est important. Aujourd'hui, on se bat pour la solidarité et pour la justice pour tout le monde. Merci beaucoup de votre mobilisation. Nous comptons sur vous et vos entourages pour le 14 mars pour faire une grande mobilisation contre le Front National. Il faut qu'on barre la route à Front National. Même si nous, les sans-papiers, on ne peut pas voter, on compte sur vous parce que vous pouvez voter. Et parce que c'est le Front National qui est en train de tuer la France aujourd'hui. Mais les gens ne se rendent pas compte. Merci beaucoup. La régularisation globale pour tous les sans-papiers. Merci.
Merci Diallo. Bazou, Moussa, pour les jeunes du parc de Belleville.
Bonjour tout le monde, à toutes et à tous. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, on est là, on s'adresse à la population française à aider pour libérer cette nation, quoi. Parce que quand on parle de présent, il faut se référer un peu à l'histoire. Ben nous, on connaît la France d'aujourd'hui, on ne comprend pas comment elle fonctionne, quoi. Parce que ça nous inquiète beaucoup, nous les mineurs isolés. Nous qui avons pris une route qui ne savait pas où ça va terminer et quoi nous attend. Et nos droits sont bafoués ici. Et étant c'est un pays des droits de l'homme, vraiment ça nous inquiète beaucoup. Parce que une mineure isolée qui est là, qui est isolée, qui dort en bas des ponts, qui arrive à se serrer les coudes là-bas jusqu'à... Il a été pris en charge à l'ASE. Maintenant, si vraiment c'est lui qui dormait en bas des ponts, maintenant il dort sur les lits, là où il y a des radiateurs, là où il y a tout, mais dans sa tête, ça ne va pas. Vraiment, voilà le pire problème qui est là actuellement, qui circule. Et on est là encore à parler un peu de ce qu'on a vu sur nos témoignages d'Alassane Diarra qui a été fait 2026, que l'État nous a donné une bienvenue encore pour une autre meurtre. Comme chaque année maintenant, on ne comprend pas si c'est une PAC pour eux, pour tuer des migrants chaque année et pour harceler les mineurs isolés et pour tabasser les gens et pour aller jusqu'à dans une mosquée, poignarder un être humain. Bah, si on parle de justice, bah, moi, selon moi, je pense qu'on entend des mots. Il n'y a pas de justice. Si on parle de droits, moi, selon moi, ça n'existe pas. Parce que ce qui est très important, c'est de l'humanité d'abord. Parce que nous, une vie n'a pas de prix. Mais si on est là aujourd'hui, si ça nous inquiète vraiment, c'est vous, notre bouclier ici en France, vous, les soutiens qui êtes là devant nous, qui laisse son temps et vient ici pour écouter notre problème, quoi. Vraiment, c'est vous, notre famille, ici en France. Parce qu'on connaît les élus qui sont là-bas, dans les municipales, qui font des campagnes municipales qui est bientôt arrivée là. On connaît, c'est les mêmes caméléons. Les élus, les députés qui sont dans les assemblées là-bas, qui parle de l'islamophobie, qui parle de l'humanisme, qui parle des grands débats ou quoi, ou quoi. On connaît, c'est le même caméléon qui est déguisé là-bas. Bah, on va croire à qui alors? À la presse ou à ces gens-là? Parce que ces gens-là, donc, moi, je ne fais pas confiance à ces gens-là. Ces gens-là nous font croire qu'ils sont bons. Mais derrière chaque discours, on connaît ce qui est derrière ça maintenant. Parce qu'on ne vous ment pas. L'actualité qu'on vit actuellement, vraiment, nous on connaît même les fils français ou certains français, ça les fait peur. Il y a certains, moi, je pense ils ont envie de fuir ce pays. Tellement ça ne va pas. Mais nous on est là, on ne va pas fuir ce pays. On va rester avec vous, vous les soutiens et vous les bons Français. Parce que selon eux, s'ils pensent qu'ils peuvent nous exploiter encore, comme jusqu'à présent, à l'instant même qu'on parle, ils le font. Mais ça va changer. La lutte, elle est là. Il y a un dicton qui dit, tu peux être un combattant, mais pas jamais un combat. Le combat que nous, on est en train de mêler là, c'est plus âgé que nous. Parce que avant que moi, je vais venir sur terre, ma couleur de peau là, avant que certains même vont venir sur terre, avec leur CV parce qu'ils sont bouclés, ils sont arabes, avant que même certains vont venir encore, ils ont été même victimisés dans les ventes de leur même maman. Ah, pourquoi avoir peur? Moi, je m'adresse à des bons Français. Sortons, mobilisons-nous. Disons, on ne veut pas ça. Si on parle de l'humanité, bah, nous, on est là, on est prêt pour ça. Parce que actuellement, leur pièce ou leur politique, ils nous parlent de l'intégration. Bah, on a été intégrés depuis la nuit des temps. Vous immigrez dans nos... C'est nous là-bas, en Afrique, vous avez installé la langue française. Et vous dites encore que nous, on n'est pas intégrés. Pas, on peut dire on est intégré parce que je parle la langue française. Moi, je peux compter actuellement les Français qui peuvent parler ma langue. Bah, moi, je peux dire aussi intégré. Pas plus que même Éric Zemmour qui parle derrière des caméras, qui ne connaissent même pas son propre histoire. Il n'a qu'à venir à nos âgés comme ça. On va lui raconter son histoire. Vous voyez, il faudrait qu'on lâche la peur. Pas parce que la rancune, nous tous, on a des rancunes. Moi, j'ai de la haine, mais moi, je ne me laisse pas la haine qui détruit ma nation ou qui détruit un peuple ou qui détruit un être humain qui est à côté de moi, qui est un être humain comme moi, parce qu'il a une couleur de peau. Moi, j'ai dit non à ça. Vraiment non à ça. On est des êtres humains. Bah, faut penser, si tu me perds, c'est le sang qui sort. Bah, l'autre encore qui a une autre couleur là, si tu le perds encore, c'est le sang qui sort. C'est le système qui essaie de nous mélanger. Parce qu'on connaît derrière chaque mère, il y a une crocodile. Mais c'est crocodile là qu'on doit décapiter et partager tous ces morceaux de viande parmi tous les pays là. Toute la France va manger ces morceaux de viande quoi. Parce que c'est ces crocodiles là qu'on doit décapiter. Derrière ses mères, merci.
Bonsoir à tous. Je suis aussi parti des jeunes du parc de Belleville, comme mon collègue qui vient de souligner et tout. On est beaucoup aujourd'hui, mais on n'est pas encore assez pour combattre ces systèmes. Moi, je vous dis, si on se bat tous ensemble, moi, je crois qu'on peut arriver. Si on reste dehors de tout ça, on ne peut pas arriver. Si tu ne crois pas, c'est que tu ne fais pas la lutte. Moi, j'étais au dehors. J'ai fait au moins 6 mois dehors que j'ai connu des collectifs. On a fait des choses ensemble que ça a rapporté des fruits. Si moi, je restais au dehors de tout ça, je n'allais pas savoir ce qui s'est passé pour être devant vous ici aujourd'hui. C'est tout cela qui fait partie de l'humanité. Que la France a déjà, en train de dire, ou tous les pays que c'est la liberté. C'est la liberté que nous soulevons aujourd'hui, tous les immigrés, pas que les jeunes mineurs, mais il faut croire toujours dans les médias que c'est les immigrés qui sont les problèmes de ces pays. Nous ne sommes pas les problèmes de la France. C'est plutôt eux qui sont les problèmes. Il n'y a pas un immigré qui vient dans ce pays qui ne veut pas s'intégrer. C'est plutôt qui c'est eux qui sont en train de dire des choses qui sont contraires dans les médias. Nous disons non à ça. Si vous et nous qui dit ici que nous disons non à ça, on doit sortir pour manifester, pour montrer que nous, on est là toujours. Pas que ceux qui sont dans la salle ici, toujours on nous parle de racisme. La police tue les gens. Que c'est la police qui doit protéger les gens. C'est la même police qui fait sortir des drapeaux français pour manifester qu'ils n'aiment pas les immigrés. On voit Laurent Nunez qui dit des propos que les policiers ils n'ont rien fait à Hassan. C'est tellement désignorant de leur part. Tellement. Les mêmes policiers là aujourd'hui qui sont en train de faire des... qui manifestent aussi. Moi, je ne comprends pas ce système-là en vrai. C'est tellement merdique ce système. Il ne faut pas qu'on va rester bras croisés. Même pas que les immigrés, ceux qui se sentent aussi des Françaises et des Françaises, et se sentent aussi mal face à ce système-là, qu'ils n'ont qu'à venir combattre avec nous. Je vous remercie.
Bonsoir tout le monde. Donc je suis Fatou du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng, une des sœurs de Lamine Dieng et membre du réseau d'entraide Vérité et Justice. Et le réseau, c'est plusieurs collectifs de familles endeuillées par les violences d'État, donc violences policières, pénitentiaires et psychiatriques, et ainsi que des personnes survivantes. Donc on lutte toutes et tous ensemble contre les violences, crimes et racisme d'État. Donc par rapport à l'histoire de Lamine, Lamine a été tuée dans le 20e, donc ça va faire 19 ans. Et quand on est revenu dans le 20e, justement, c'était pour une marche blanche. On ne pensait pas qu'on allait revenir dans le 20e pour marcher pour une autre victime en dehors de Lamine. Donc là, ça a été pour les deux frères qui ont été tués au Pont Neuf, mais qui habitaient aussi le 20e, donc Boubacar et Fadégui, qui ont été abattus en 2022. Donc après 2022, ça a été les trois enfants, Safiatou, Salif et Ilan, qui ont été... qui ont été volontairement accidentés par la police, et toujours dans le 20e, et toujours par la police du 20e. Et après, ça a été El Hassen, paix à son âme. Et sans oublier aussi, voilà, peut-être que certainement que d'autres jeunes ont dû recevoir de la violence de cette police du commissariat du 20e, mais qu'on ne le sait pas. Et tout ça pour dire que oui, ce commissariat, il faut en finir avec, quoi, tout simplement, parce qu'on ne peut pas continuer, que ce soit ce commissariat ou les autres commissariats, il faut en finir avec la police, tout simplement, parce qu'on ne peut pas continuer à... On ne peut pas continuer à ramasser nos morts en silence, on ne peut pas continuer à réparer, à soigner nos blessés, donc, et en plus de ça, ce sont quand même nos impôts qui les payent, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est limite, on paye pour se faire flinguer, on paye pour se faire violer, on paye pour se faire mutiler, on paye pour se faire blesser, voilà. Par une police, toujours, qui est censée nous protéger. Et même les enfants y passent. Les enfants sont mis au pas par la police, par l'État même. Parce qu'il y a eu les jeunes, justement, les jeunes lycéens qui ont été mis à genoux par des policiers, et il y a eu un non-lieu en avril dernier. Donc qu'est-ce que ça renvoie aussi à ces jeunes? À savoir qu'il n'y a pas de justice, ils peuvent se faire malmener par la police, tuer par la police, violer par la police, et rien ne se passe. C'est comme si, limite, on cautionnait ça, et ce n'est pas ça qu'on veut laisser à nos enfants, ni à nos petits-enfants. Comme on le dit, on veut être dans la vie et pas dans la survie. Donc oui, ça va être une lutte compliquée, dure, éprouvante, précarisante, mais il faut continuer à se battre. Et se battre, ce n'est pas juste la famille de El Hassen, c'est tout le monde. Tout le monde ensemble. Parce que cette police ne fait pas de différence, même si on sait que c'est plus des personnes non blanches qui sont visées, mais aujourd'hui, il n'y a plus de différence réellement, quoi, dans le sens où même les militants en manifestation se font aussi malmener, se font aussi brutaliser, des enfants aussi pareil reçoivent aussi des coups. Donc non, c'est bon. Là, il faut vraiment que les choses changent, tout simplement, quoi. Et effectivement, oui, c'est une lutte pour tout le monde. C'est une lutte où tout le monde est concerné, parce qu'en tant qu'être humain, on est toutes et tous concernés. Il ne faut pas attendre, justement, que ce soit encore un autre. C'est comme si, limite, pour les personnes non blanches, c'est comme si on attendait à savoir ça va être qui le prochain, ça va être qui la prochaine. Et ça, non, ce n'est pas possible, quoi. Donc, on ne veut pas une police comme ça. On ne veut pas de police, justement, où on a toujours peur de sortir juste parce qu'on va se faire contrôler, les contrôles aux faciès qui peuvent justement arriver à la mort de la personne, tout simplement, quoi. Donc voilà, bah, plein de force à tout le monde, surtout à la famille, et que surtout le soutien, c'est pas un instant simplement, c'est dans le temps. Nous, notre lutte, elle a duré 10 ans d'instruction pour se conclure sur un non-lieu, et qu'on a continué à faire appel pour justement que ce non-lieu soit cassé. Il n'a pas été cassé, le non-lieu définitif, c'était en 2014. Et donc de là, bah, la seule possibilité qui s'offrait à nous à cette époque-là, c'était la Cour européenne. Donc on a déposé le dossier à la Cour européenne en 2018, et c'est en juin 2020 qu'il y a eu cette décision, donc, qui pointait la responsabilité de l'État français, mais pas les mises en cause. Donc eux continuent à violenter, si ce n'est pas tué. Ils sont, certains sont encore dans le commissariat du 20e. Ils ont été promus, il y a eu des couples qui se sont formés, et nous, notre vie, elle est restée suspendue à 2007, quoi. Voilà, c'est comme ça que l'État français résout les problèmes de violence policière, les crimes policiers que l'État lui-même orchestre. C'est surtout ça le comble. Donc oui, il faut continuer à se battre et continuer à soutenir la famille, parce que c'est une lutte qui va être longue, qui va être, comme je l'ai dit, ça va être précarisant, donc la famille aura besoin de sous, parce qu'une procédure, ce n'est pas gratuit. Donc personne n'est assis pour se dire, je vais épargner pour le jour, je vais me faire, quelqu'un de ma famille va se faire flinguer par un policier, ou blessé, ou mutilé, ou je ne sais quoi. Donc là, la famille a besoin d'argent. Donc sans argent, malheureusement, on ne peut pas lutter contre ces violences d'État, parce que quand on lance des procédures, les procédures sont coûteuses. Et donc, voilà. Donc, pour continuer à soutenir la famille, il ne faut pas oublier le côté financier aussi. Et que le soutien, c'est dans la durée, ce n'est pas une histoire d'un instant. Merci. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, donc, le 14 mars, qui s'organisera avec les collectifs de sans-papiers, la marche des solidarités. Donc, c'est une marche que le réseau organise contre les violences, les crimes et les racismes d'État, donc le 14 mars, partout en France.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible, et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.